Capitalisme et pulsion de mort, drôle d'association, vous direz-vous, à y regarder de près. Les deux font la paire. Capitalisme et pulsion de mort, c'est le titre du livre que Gilles Dostaler et Bernard Marie sont écrits ensemble. Très brillamment et de façon convaincante, en s'appuyant sur la pensée de l'économiste Keynes et du père de la psychanalyse, Freud, il montre comment ce que Keynes appelait le désir morbide de liquidité et Freud la pulsion de mort, sont nichés au cœur du capitalisme. Dans les années 30, déjà, on pouvait décrire de la sorte la dépression économique qui a conduit une partie du monde à la faillite. Gilles Dostaler est historien de la pensée économique. Quant à Bernard Maris, il est agrégé d'économie et journaliste, mais vous le connaissez puisqu'il intervient chaque matin à 7h10 sur France Inter. Nous les retrouverons dans un instant. Le temps de vous rappeler quelques-uns de nos rendez-vous. 5h53, Stéphane Guillon. 6h18, Frédéric Pommier pour la revue de presse. 6h22, Isabelle Monrosier. 6h25, nous parlerons d'un reportage effectué à Fleury-Mérogis par des détenus eux-mêmes. Et puis à suivre à partir de 6h48, Simon Tivol, Bernard Maris, précédemment cité, et Patrice Gélinet.
Le 5-7, Patricia Martin, sur France Inter.
Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans ce livre, Capitalisme et pulsion de mort, en vous appuyant donc sur la pensée de Keynes et de Freud, vous dites que l'amour de l'argent est destructeur, qui conduit à la mort. Pour Keynes, l'amour de l'argent, c'est même comme un adjuvant de la sélection naturelle. Est-ce qu'on peut, dans la lignée, dire mort aux pauvres ?
Non. Non.
Gilles Dostaler.
Cette idée-là, d'ailleurs, ne vient pas seulement de Keynes et de Freud. On la trouve déjà chez Aristote, chez les penseurs scolastiques, on la trouve chez des grands écrivains comme Shakespeare, Balzac, Zola. Donc l'idée étant que l'argent est d'une part une invention utile et puis même indispensable pour procéder à l'échange des biens, mais d'autre part a des caractéristiques qui fait qu'on le désire pour lui-même, et ce désir pour lui-même engendre toute une série de conséquences qui risquent, c'était entre autres l'idée d'Aristote, de dissoudre la société, de la détruire. Dans le cas de Keynes, il considère que c'est une tendance perverse, en fait, que c'est une maladie, mais qu'en même temps elle est omniprésente et puis elle est presque indispensable. À la fin de la théorie générale, il dit bon, s'il y avait pas ça, les gens au lieu d'accumuler de l'argent exerceraient un pouvoir sur leur semblable. Donc l'amour de l'argent sert, si on veut, de sublimation à des pulsions destructrices. Par ailleurs, évidemment, quand on accumule l'argent pour l'argent, eh ben on cesse de l'utiliser, et donc on cesse idéalement de consommer. C'est le mythe de Midas, et en ce sens-là, l'argent, l'amour de l'argent et mortifère.
Alors, le capitalisme, Bernard Maris, c'est en même temps un moment particulier de l'histoire. On peut dire qu'il y a eu un avant, qu'il y aura peut-être un après. En quoi ça consiste exactement ?
Alors, c'est le moment très curieux où la technique, qui est une forme de la culture, c'est ce que dit Freud, c'est la première forme de la culture, est commise et est destinée à accroître la productivité des hommes. C'est-à-dire que les hommes vont rentrer dans un processus où ils vont chercher perpétuellement à gagner du temps. Et il va y avoir une course perpétuelle contre le temps. Et comme on sait que le temps, c'est de l'argent, en même temps que cette course contre le temps, il va y avoir un désir d'accumulation infinie d'argent, comme le disait Dostaler. Donc c'est un moment très particulier où on cherche à accumuler pour accumuler, à gagner du temps pour gagner du temps, sans se préoccuper de ce qu'il peut y avoir au-delà de l'accumulation d'argent ou au-delà de ce gain de temps qui, après tout, pourquoi passer à côté de la vie plutôt que vivre.
Mais Freud se méfiait beaucoup de la technique. La technique, pour dire ce que c'est quand même, ça commence par le feu, par la maison, par la viande salée.
Absolument, c'est ça, c'est la technique. C'est le début de la culture pour Freud, c'est-à-dire qu'on commence à lutter contre les éléments. On commence, dit Freud, à lutter contre l'invincible nature. Donc l'homme commence à se prendre un peu pour un dieu. Il apprend à voler comme les oiseaux, à nager comme les poissons, etc. Il se rapproche un peu asymptotiquement de Dieu. Il se rapproche de plus en plus de Dieu, mais sans jamais l'atteindre. Et c'est dans ce moment où il lutte contre l'invincible nature qui détruit cette nature elle-même. Donc c'est ce processus de destruction qui est un petit peu la pulsion de mort qui est en l'œuvre dans le capitalisme.
Donc quand on parle de croissance, il vaudrait peut-être mieux parler d'accumulation.
Oui, c'est ça. Effectivement, lorsqu'on dit croissance, on ne sait pas ce qu'on mesure exactement. On ne sait pas si c'est du bien, si c'est du mal, du bien-être ou du mal-être, etc. En fait, c'est une accumulation pour l'accumulation. C'est un refus de vivre d'une certaine manière. C'est un désir d'accumuler de l'argent, mais sans savoir ce qu'il y a au-delà de l'argent. Et c'est ce qui est délétère et qui détruit la nature.
Cette pulsion de mort, elle est peut-être difficile à envisager. Je crois d'ailleurs que pour Freud lui-même, il a eu du mal à admettre ça, l'idée de pulsion de destruction. On aime plutôt parler de jouissance. On ressent en soi, surtout par exemple là, on se lève le matin, on a plutôt envie de vivre. Donc comment admettre cette pulsion de mort, l'intégrer à nos vies?
Non seulement d'ailleurs Freud a eu la difficulté lui-même à l'admettre, mais ses disciples, c'est un des aspects de sa pensée qui a été le moins bien accepté par ses disciples. Ça lui est, on dit en général qu'il l'a exposé pour la première fois en 1920 dans Au-delà du principe de plaisir, où il a dit d'ailleurs que c'est pas uniquement quelque chose qui concerne les êtres humains. Tout ce qui est vivant, la fin de tout ce qui vit, c'est la mort. Donc la mort est en jeu dès le départ. Il y a comme une espèce de dialectique de la vie et de la mort qui est présente dans tout être vivant. Mais en réalité, on trouve avant des réflexions, entre autres, Freud a écrit en 1915 un truc qui s'appelle « Actuel sur la mort et la guerre ». Donc la guerre.
Parce que la guerre est une mise à nu.
Absolument. Fait. Et puis la question que posait Freud, d'ailleurs à ce moment-là, puis il y a eu un dialogue intéressant aussi avec Einstein. Freud disait « Comment se fait-il que des gens mon apparence correcte, tu sais, comme je sais pas, Bernard et moi, et ainsi de suite, qui se trouvent brusquement avec une arme à la main, et puis trucs deviennent des tueurs, des bons, etc. Alors comment ça peut arriver? Et là, dans sa réflexion, Freud dit en fait, c'est parce qu'on se faisait des illusions sur l'être humain. En réalité, la culture est le fruit d'une répression des instincts à la fois destructeurs et autodestructeurs. Et l'homme vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que la civilisation est reliée. C'est assez déprimant, on peut dire, comme vision, comparativement à celle de Keynes.
C'est-à-dire et la jouissance, elle peut être dans le mal.
La jouissance peut être dans le mal, parfaitement. Et d'ailleurs, Freud dit, Eros, il y a Eros qui est, bon, la reproduction, qui est le sexe, qui est l'amour, etc. Mm. Et il y a Thanatos, mais il dit, en fait, dans Eros même, il y a une tendance destructrice, il y a le sadisme, il y a le... Et puis, quand un proche meurt, on se sent coupable parce que parfois, on a souhaité non seulement la mort de nos ennemis, mais on a souhaité la mort de... Freud lui-même avait souhaité, disait-il, la mort de son jeune frère quand il est né. Donc, si on veut, la violence, l'agression est à l'intérieur même de l'amour, de la vie. Donc, il y a comme une dialectique perpétuelle.
Gilles de Stellaire et Bernard Maris, dans ce livre Capitalisme et pulsion de mort, vous montrez très bien le message commun qu'il y a entre Keynes et Freud de cette humanité qui veut se détruire même quand elle paraît construire. Il y a des choses qui les rapprochent, il y a aussi des choses qui les divisent. On se dit que il y en a un qui est fortuné, libéral radical, qui est plutôt proche du pouvoir économique et politique, c'est Keynes. L'autre qui a été plutôt pauvre, en tout cas une bonne partie de sa vie, conservateur, loin de la politique. Qu'est-ce qui a fait que ces deux hommes, d'abord, est-ce qu'ils se sont connus, est-ce qu'ils se sont fréquentés, est-ce qu'ils ont échangé des idées entre eux?
Ils se sont pas rencontrés, mais ils se sont indirectement rencontrés du fait que Keynes faisait partie d'un groupe, le groupe de Bloomsbury, qui comprenait des artistes, des écrivains, des psychanalystes, dont un qui était un très proche ami de Keynes, qui a été analysé par Freud et qui est devenu son traducteur et son éditeur en anglais, James Strachey. Donc, ils se sont lus, bien sûr. Keynes a lu Freud et Freud a lu Keynes. Et ils ont eu des communications indirectes via ces personnes, si on veut. Donc, mais d'autre part, en ce qui concerne la question, effectivement, le rapport à l'argent personnel des deux est très, très différent. Freud a été, à partir d'un certain moment, non pas très riche, mais assez fortuné.
Mais à partir d'un certain moment...
Il y a toujours... Il y a un de ces Zaretsky, je crois, qui était son médecin, puis qui a écrit un livre qui s'appelle « La mort dans la vie de Freud », et qui dit que Freud avait toujours lui-même un rapport névrotique à l'argent. Il a toujours peur de manquer d'argent. Dans sa correspondance, quand on la lit, il est toujours en train de parler de « bon, là j'ai plus assez de patients », et ainsi de suite. Et puis, jusqu'à la fin de sa vie, en fait, il dit lui-même que ça vient du fait que quand il était très jeune, il a été très pauvre. Son père a fait faillite, bon, etc. Donc, il a vraiment vécu dans la pauvreté pendant un certain nombre d'années, alors que Keynes, comme on dit, est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, sans être pour autant d'une famille très riche, quoi. Keynes soit devenu riche, leur rapport personnel à l'argent est différent. Mais paradoxalement, si on veut, sur l'échiquier politique, on pourrait dire que Keynes est plus à gauche que Freud, si on veut. Ou du moins, en tout cas, que Keynes est plus proche de la chose politique. Freud, à partir de la fin du 19e siècle, avec la montée, entre autres, de l'antisémitisme à Vienne, tout ça, Freud s'est comme retiré la politique. Et puis on sait qu'il y a eu une étude assez ambiguë au bon moment des années 30 pour protéger la psychanalyse, par exemple, en Allemagne.
Donc, on peut dire aussi que Keynes est devenu pessimiste et que Freud l'était au départ, non? Ou je dis une bêtise?
Je dirais que oui, c'est-à-dire que Freud est pessimiste et qui son pessimisme s'accroît après la Première Guerre pour des raisons à la fois personnelles. Bon, il perd sa fille, son cancer la mâchoire qui fait énormément souffrir, mais aussi la montée du fascisme, du nazisme, donc il est de plus en plus pessimiste. Keynes, je dirais que c'est plus constant. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il continue à... Bon, il voit bien la sauvagerie, les dangers.
Il l'a pas vu arriver, hein, la Deuxième Guerre mondiale, pas plus que la Première, d'ailleurs.
Non, ni la Première, ni la crise de 29, d'ailleurs. Bon, et puis à chaque fois, il pensait que ça allait se régler vite. Parce que Keynes, je dirais qu'un de ses critiques que je lui fais, c'est la surestimation du pouvoir des idées. Donc, il pense que, bon, par sa parole, par ses écrits, il va pouvoir changer les choses. À un moment donné, il dit à Hayek, bon, il y a un problème, je vais faire un discours n'importe quoi, puis l'opinion publique va changer. Bretton Woods, il a mal évalué la résistance des Américains à ses propositions. Il évalue mal les rapports de force.
Bernard-Maris, il y a une fascination pour le mythe de Midas chez l'un comme chez l'autre, chez Keynes comme chez Freud, et à mon avis, vous aussi, vous n'en êtes pas loin de cette fascination. Peut-être rappeler qui était Midas, hein, c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est un monsieur qui a été important.
C'est ça, c'était un roi de Phrygie, voilà. Qui avait fait prisonnier Dionysos dans ses filets. Et pour le délivrer, il a demandé un don, le don de transformer tout ce qu'il touchait en or. Et donc, effectivement, il aimait tellement l'or, cette cupidité extraordinaire, a fait que, comme il a voulu se nourrir, il ne pouvait plus manger. Donc il a été délivré de ce maléfice et en se baignant dans le fleuve Pactole qui depuis transporte de l'or. Alors ce mythe de Midas, il est un peu à l'origine de notre livre.
Ouais.
C'est-à-dire que on a compris, et c'est vrai que Keynes est fasciné par ce mythe, on a compris que le désir exacerbé d'argent peut conduire à la mort. Et c'est à partir de là qu'on a réfléchi sur le capitalisme et la pulsion de mort, et essayer de voir comment cette pulsion de mort était, par une ruse extraordinaire, utilisée par le capitalisme, qui utilise nos instincts de mort, hein, notre désir de détruire, mais aussi nos instincts de vie. Ça, c'est la thèse de Marcuse, disant que la libido, Reich, tout ça, il disait que, bon, effectivement, si nous sommes tellement productifs, si nous nous impliquons tellement dans le travail, si nous avons vraiment tellement envie d'accumuler, etc., c'est parce que ce système capitaliste est très malin et arrive à détourner ces pulsions à la fois morbides et à la fois, au contraire, bénéfique, comme la pulsion de vie, vers la production et l'accroissement infini de productivité. Des mystères comme la servitude volontaire, par exemple. Pourquoi, comment comprendre le fait qu'on désire se faire souffrir d'une certaine manière dans le travail? Eh bien, s'explique assez bien lorsqu'on fait intervenir la pulsion de mort dans le capitalisme.
Le capitalisme, c'est que ça a quelque chose, évidemment, aussi d'assez, d'à la fois immature, si je vous comprends bien, et d'irrationnel, en quelque sorte, alors qu'on veut tout mettre, les économistes nous expliquent comment les choses vont arriver. En fait, on n'en sait rien.
Ça aussi, c'est une thèse du livre. C'est-à-dire que le capitalisme est un infantilisme. C'est une insatiabilité. Le fait que nous sommes dans une société immature, qui ne sait pas se contenter de ce qu'elle a, et qui a toujours besoin d'avoir plus, et qui, en voulant assouvir ce besoin qui est infini, parce que, au fur et à mesure qu'on assouvit ses besoins, d'autres besoins apparaissent, qui sont tout aussi factices, eh bien, on détruit tout ce qui est autour de nous. Donc, effectivement, cette insatiabilité infantile, qui est liée au fait que le désir d'argent est infini, comme le désir des enfants est infini. Un enfant ne sait pas s'arrêter, eh bien, c'est ce qui peut peut-être provoquer la ruine de nos sociétés.
Bernard-Marie Gilles d'Ostalaire, on vous retrouve tout à l'heure après les informations de 5h30 pour continuer.